David, je te laisse la parole.
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis assez surpris et en même temps content d'être invité à cette assemblée générale. Je m'excuse auprès de certaines personnes, par exemple, pour le coup, qui a déjà vu deux fois mon PowerPoint. Je vais le réécouter pour la troisième fois. On commence. Mais essayer d'aller plus rapidement. Aussi. Alors, le chemsex, qu'est-ce que c'est par définition, d'accord? C'est vraiment l'addition de deux mots, de deux termes anglais, chemical, substance psychoactive, et sexe, d'accord? Sexualité, sexe. La définition consensuelle, c'est la prise de substances psychoactives dans un contexte sexuel afin de faciliter, augmenter, intensifier les rapports sexuels, d'accord? C'est important d'entendre cette définition parce que, par exemple, ce n'est pas je consomme de l'alcool, par exemple, ou de la cocaïne pour me désinhiber et du coup, dans quelque chose de désinhibition sociale, je vais pouvoir plus facilement draguer et donc avoir accès à de la sexualité plus facilement. Bon, là, c'est vraiment dans le rapport sexuel en soi, c'est vraiment enrichir le rapport sexuel. En fait, quand on parle de chemsex, voilà. On parle surtout de substances assez spécifiques, que sont les catinones, on y reviendra, d'accord, qui sont des psychostimulants, et du GHB ou GBL, liquide, qui a une action, on va dire, proche de l'alcool, de bien-être, de désinhibition libidinale et de relâchement. Puis quand on parle de chemsex, on sous-entend souvent le terme SLAM, d'accord, donc l'injection de ces substances psychoactives, toujours dans ce contexte sexuel. Et certains auteurs, ça se discute, en tout cas, ça s'entend. Souvent, quand on parle de chemsex, on sous-entend aussi les HSH, d'accord? C'est plutôt une définition plus communautaire, mais qui, pour l'instant, correspond quand même à une réelle, enfin, une certaine réalité clinique. Sociodémographie, je vous le disais, c'est en grande majorité les HSH, d'accord, certains sociologues voilà, parlent de cette fameuse, si je puis dire, gay culture. Okay. Une étude assez récente, sociologique, de 2021, nous rapporte voilà, que parmi quasiment 1200 chemsexeurs, d'accord, qui pratiquent régulièrement le chemsex, on avait 73% d'HSH. Et une étude bon, qui commence un petit peu à dater, mais qui a le mérite d'être française, nous rapporte que, je ne sais plus exactement, mais c'est plusieurs milliers de patients, de personnes, excusez-moi, HSH, qui rapportaient 20%, autour de 20% d'usage fréquent de chemsex. Et un chiffre qui est là vraiment faux, bonne fertilité, c'est que on retrouve également 3% de slammer, d'accord? Donc, cette consommation de substances psychoactives injectées dans ce contexte sexuel. Il y a un contexte socio-culturel à ça, avec deux phénomènes, d'accord, relativement récents. Le premier phénomène, c'est l'accessibilité par Internet de ces substances psychoactives, d'accord, l'accessibilité qui est vraiment facile, même pour un profane, hein, il faut connaître tout simplement les noms des sites Internet qui sont souvent basés en Hollande, et vous avez directement via Google la possibilité d'acheter des catinones, des substances psychoactives. Et également, évidemment, le fameux phénomène sociologique qu'on a d'abord observé chez les HSH, Grindr, qui maintenant c'est Tinder chez les hétérosexuels depuis 10 ans à peu près, ce côté, voilà, application mobile de rencontre, finalement, l'accès au sexe, si je puis dire, est vraiment plus facile. Donc voilà, des rencontres plus faciles dans un but sexuel et des substances psychoactives plus accessibles. Alors, évidemment, le chemsex, c'est lié à une sexualité, comment dire, en tout cas, une sexualité, bon, on verra, à risque infectieuse, une sexualité pas classique. D'accord? Les patients me rapportent, voilà, que généralement, ils lancent l'application et rencontrent très très rapidement, d'accord, bah, un HSH qui peut bien les rencontrer dans leur... Enfin, voilà. Il y a de la rencontre vraiment très rapidement via les applications. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, les chemsexeurs vont se constituer leur propre réseau, d'accord, via toutes ces rencontres, au fur et à mesure de leur rencontre, vont se constituer leur propre réseau social de chemsexeurs, d'accord, de partout, ce qu'il y a parfois, qui, évidemment, est souvent complètement clivé de leur, d'autres réseaux amicaux, de leur réseau professionnel, etc. On a une sexualité classiquement, ce qu'on voit en tout cas dans ce que je vois chez mes patients, ça s'appelle le party and play, d'accord, hein, bon, c'est dans le titre. C'est une sexualité là, vraiment plutôt chez les très addicts, qui va être une sexualité solitaire, des patients tellement addicts que finalement vont s'injecter seuls dans leur chambre, de manière compulsive ces substances, et en même temps masturbation et film pornographique pendant des heures. Là. Et ensuite, le problème, notamment en fait, de cette sexualité qui est pour le coup vraiment considérée à risque, c'est le non-port du préservatif et c'est les pratiques sexuelles hard, type fist fucking, etc. Et puis il y a quelque chose d'autre qui évidemment est réellement dangereux dans cette pratique, c'est ce qu'on appelle le côté marathon, d'accord, marathon du sexe, puisque ces substances, notamment des catinones, ont un effet amphétamine-like. Donc, ces personnes peuvent tenir pendant des heures dans une espèce de consommation excessive de substances, plus ou moins par injection, et de sexualité. Donc, spécifiquement, d'accord, les substances psychoactives qu'on retrouve dans le chemsex sont plutôt, je vous l'ai dit, les psychostimulants type catinone, les relaxants type GHB, et puis d'autres substances qui sont moins spécifiques, mais qui sont apportées également par nos patients. Les effets recherchés, vous l'avez compris, c'est augmenter la libido, se désinhiber sexuellement, avoir des sensations accrues, d'accord, un petit peu comme on peut avoir dans l'ecstasy, la MDMA, les patients le disent, c'est plus agréable, c'est mieux, et le côté endurance, je l'ai dit, par le côté amphétamine-like. Le danger également, c'est que par effet périphérique de ces substances psychoactives, les usagers, les patients vont rapporter des troubles de l'érection, d'accord, directement liés en fait pas aux médicaments, mais à ces drogues, et donc vont associer en plus des prises de facilitateurs érectiles et donc augmenter un risque faire de risque cardiovasculaire. Très rapidement, les catinones de synthèse, c'est donc ces fameux psychostimulants relativement récents qui sont produits, qui sont synthétisés, excusez-moi, dans des laboratoires d'Europe de l'Est, dans des laboratoires d'Asie du Sud-Est. Il y a plein de noms différents parce qu'ils en sortent tout le temps des nouvelles molécules. C'est extrêmement peu cher, d'accord? Et en plus, vraiment, je l'ai dit, ça existe par internet, c'est vraiment pas cher. Ça agit vite. Et ça, c'est extrêmement addictif parce que c'est, en tout cas dans le ressenti des usagers, c'est extrêmement bon. Alors, il va avoir un pic hyper dopaminergique qui va vraiment augmenter le plaisir de la relation sexuelle, mais aussi bien de la substance. Voilà, avec différentes complications médicales dans l'intoxication. Le deuxième produit, je vous en ai déjà parlé, d'accord, c'est le GHB, le GPL, dans le milieu HSH. Festif, on appelle ça le G, d'accord. Donc, c'est ce liquide inodore, incolore, que les patients vont prendre volontairement, d'accord. Souvent, les médias racontent c'est la drogue violeur, etc. Mais nous, le GHB, en grande majorité, est volontairement pour obtenir ce côté alcool-like, c'est-à-dire désinhibition, désinhibition et aussi relaxation, relâchement. Le danger, il est vraiment un risque dans sa prise, le GBL. Puisqu'il a au niveau pharmacologique, la fourchette est ténue entre effet obtenu et ensuite effet toxique. Donc, on peut se retrouver avec des patients qui vont être dans des états de somnolence, bon, certes, mais aller jusqu'à ce qu'on appelle le GIO, donc c'est un état comateux, avec un transfert en réanimation et recours par le SAMU. Bon, il y a plein de conséquences négatives que vous devez évidemment connaître, je ne dis pas. En soi, le chemsex, la session chemsex est dangereuse, d'accord, risque d'intoxication, que ce soit au niveau cardiovasculaire, neurovasculaire, au niveau du coma, transmission infectieuse, on y reviendra, d'accord, des risques psychiatriques, comme des bouffées délirantes induites, des conduites suicidaires qui sont possibles, des traumatismes, et parfois des viols sans rapport. Voilà. vraiment donc un comportement dangereux et à risque. Au niveau des IST, bon, bah, par la modalité, d'accord, d'usage, si je puis dire, de ce phénomène, forcément, c'est un risque d'IST, hein. Partenaires multiples, pas de port de préservatif, on a des pratiques hard, donc plus à risque. On a le SLAM qui est spécifiquement bien plus à risque encore de transmission des IST. Voilà, donc là, une étude un petit peu ancienne de 2015, mais française, voilà, qui portait les patients chemsexeurs, on aurait un risque de VIH, de transmission VIH multiplié par 5, un risque de contamination VHC multiplié par 14. Donc vraiment, un réel risque infectieux qu'on peut du tout minimiser. De toute façon, vous voyez tous les jours dans vos consultations. Au niveau du VIH, donc voilà, je l'ai dit, il y a la transmission. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, intéressant, c'est que le VIH est à la fois la transmission du VIH, la contamination du VIH, est à la fois une conséquence et un facteur de risque au chemsex. C'est quelque chose qui s'auto-entretient, finalement. D'accord ? Donc là, sur cette étude de 2018, sur 1734 HSH, VIH ou IST, donc VIH positif, on avait 17% de chemsex et 4% de SLAM. La PrEP, les patients qui consultent pour la PrEP ont plus souvent des chemsexeurs, mais ce qui est également intéressant, c'est que, du coup, les chemsexeurs qui consultent pour la PrEP sont aussi plus au fait de la diminution des risques, notamment de transmission du VIH. Et puis, c'est pas encore, voilà, il n'y a pas de consensus à propos de est-ce qu'il y a une interaction entre ces substances, les catinones de synthèse notamment, et les antirétroviraux ou la PrEP. D'autres IST, toujours par les mêmes modèles de transmission, d'accord, bon, avec ça, donc, voilà, je sais que le docteur Baofoum, avec qui j'échange régulièrement, me rapporte dans ses consultations des patients qui reviennent extrêmement régulièrement pour syphilis, pour gonorrhée, pour chlamydia, etc. Et qui, elle envisage, enfin, en tout cas, à chaque fois, elle essaie de dépister des patients qui aiment ça. Le VHC également. Donc, évidemment, on en a parlé un petit peu avant, d'accord, ce n'est pas des IST en tant que tel, mais pendant l'épidémie du Covid-19, probablement, en tout cas, ça a été rapporté dans la littérature scientifique, le chemsex, le phénomène chemsex, a aidé à la transmission du Covid-19. Et puis voilà, extrêmement récemment, le monkeypox, ce que disait Sargoy. Comportement à risque d'addiction, car comportement à fort craving, c'est-à-dire un fort plaisir irrépressible de consommer. D'accord ? Je suis en soirée, je consomme des catinones de synthèse, j'ai un high, j'ai une hyperdopaminergie, un hyperplaisir par le système de récompense. Ça se fixe au niveau de mon amygdale hippocampique, le cerveau des émotions. Et finalement, je retiens que c'est bon. Et j'y retourne. Et progressivement, je ne consomme plus parce que j'en ai envie, je consomme parce que j'en ai besoin. Ce qu'on retrouve de manière assez spectaculaire, pour le coup, ce qu'on avait un peu aussi chez Toxico IV dans les années 80-90, c'est les conséquences sociales et professionnelles avec un isolement amical, un isolement amoureux et de l'absentéisme professionnel, voire des licenciés. Là, les complications psychiatriques, notamment, dont je vous l'ai dit, des bouffées délirantes aiguës pour rencontre aux urgences, des troubles dépressifs, des troubles anxieux caractérisés, sévères, avec des idées suicidaires, parfois des tentatives de suicide. Parfois des suicides. Au niveau de la stratégie de soins qui semble pour l'instant le plus intéressant, c'est d'aller, vous savez, c'est toujours ce qu'on dit en santé publique sur ce qui est santé communautaire, c'est d'aller vers les patients, d'aller vers les usagers. La réduction des risques et des dommages est extrêmement pertinente pour cela. J'informe les médecins, j'informe les usagers. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques conseils de réduction des risques. Ça, c'est issu d'un flyer qu'on a développé avec le Corévi, d'accord, avec Sylvie, le GAC, avec Zélie Jula, avec Bofou, on a travaillé dessus, et d'autres, évidemment, que j'oublie, il y avait Ego, Justin Aboucle, etc. Voilà. Donc, finalement, comment réduire le risque de ce comportement dangereux? AIDS est très présent pour le moment, d'accord, sur la prise en charge des patients chemsexeurs, notamment avec leur groupe d'autosupport, d'accord, ils ont un groupe une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, dans le Marais, où ils proposent des groupes de parole, des groupes d'échange, pas des groupes de parole. Au niveau médical, ce qu'on essaie de travailler ici à Bichat, C'est le partenariat entre différentes spécialités, hein, que ce soit les urgentistes, les infectiologues, les psychiatres, évidemment, de la santé publique, c'est important. Et comme bon, là, je parle vraiment par la prise en charge médicale, parce que ça passe aussi par tout ce qui est social et tout ce qui est associatif. C'est pour ça que les XAPA, les CARUD, le CEGID aussi, d'accord, la consultation médicale, le CEGID, on peut vraiment repérer les patients ayant des addictions du chemsex, réellement pertinent. Bon, voilà quelques points sur lesquels on a travaillé ensemble avec Sylvie Legac, Zélie, dans le cadre voilà, de la commission de population générale usagée de substances psychoactives, qui essaie de développer un peu la filière de soins patients SMIT, patients CEGID, consultation psychiatrie addictologie, voilà le flyer dont je vous parlais, qui là, je sais pas, qui va bientôt être imprimé, je pense. Qui sort demain, voilà. Vous l'avez là en exclusivité. Et puis, l'étude sur laquelle on a travaillé également, en petit groupe, on a beaucoup travaillé dessus. Et là, on attend un peu sur les nerfs le comité d'éthique, le raccord du comité d'éthique, qui est l'étude COPACHEM, c'est-à-dire évaluer les comorbidités psychiatriques et addictologiques chez ces patients chemsexeurs. Donc voilà, les take-home messages, hein, pour l'instant, c'est correspond aux HSH. Le VIH est présent, d'accord, mais c'est-à-dire que moi, vraiment, ma consultation à l'heure actuelle, pour l'instant, vie de recrutement, mais c'est quasiment que des patients VIH+, réellement. Également, ce qu'on retrouve plutôt dans la littérature, ce que je sais, ce qu'ils retrouvent au centre prêtre de Bichat, c'est voilà, des patients chemsexeurs. Il y a plus, en tout cas, des patients chemsexeurs qui demandent la PrEP et vice-versa. C'est un comportement à risque, vous l'avez compris, c'est dangereux. Il y a une mise en jeu du pronostic vital, c'est extrêmement dangereux. Les pistes de stratégie de soins, c'est la RDRD, ce qui a toujours fonctionné, et évidemment le côté réseau de soins. Voilà. Vous avez des questions?
Merci. Je voudrais revenir sur des techniques vraiment en tant que psychiatre. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la prise en charge de cette addiction?
Moi, je dirais non. Sincèrement, je dirais non, avec vraiment la base, ça serait l'entretien motivationnel, les outils TCC, les groupes de parole. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on arrive à ouvrir un groupe de parole, parce que ça marche très bien, les groupes de parole, et la prise en charge des comorbidités quoi, médicales. Mais non, non, non. Moi, sincèrement, je pense... Voilà, oui, c'est aussi pour ça que j'ai lancé la consultation de chemsex. C'est que je pense qu'en tant que psychiatre addictologue, je suis relativement compétent pour faire cette addiction.
Et toujours dans le domaine de l'ancienneté et de succès, les narcotiques anonymes. Est-ce qu'on retrouve chez les narcotiques anonymes et quel secteur?
Tout à fait. Moi, je vois plus mes patients chez les narcotiques anonymes que chez S. J'ai eu quelques retours particuliers par rapport à S.
J'ai une question justement. Est-ce que vous avez des patients qui on a parfois ce retour justement des patients qui en fin de compte dans le chemsex à la fin sont plus que sur le chem et plus du tout le sexe.
Ah tout à fait.
C'est ça.
Ah, c'est vraiment
des personnes qui après bah, oui. Vous en parliez parce que ouais, au début c'est au moins à deux. Généralement on a un peu plus de deux dans ces contextes là. Et en fin de compte, on voit aussi que les personnes vraiment s'isolent et qu'au bout d'un moment, il n'y a que le produit et cette consommation et les relations sexuelles sont...
Là, je viens de faire admettre dans l'unité d'urgence, depuis cher, une unité de court séjour psychiatrique, un patient qui en était à consommer tout seul depuis 3 semaines, à se piquer tout seul dans sa chambre en consommant des images pornographiques. Donc, toute sexualité est vraiment... Enfin, la masturbation.
Et à l'inverse, plus de sexualité non plus, sans produit.
Tout à fait. Ouais, là, c'est là vraiment qu'on voit le côté addictif. Quoi. C'est que c'est plus possible et c'est vraiment classique. Avant, je disais que c'était plutôt les HSH célibataires, mais en fait, c'est pas vrai. C'est souvent, enfin, moi, dans ma consultation de ce que je vois, c'est des patients, des mecs, maqués depuis 20 ans avec leur compagnon. Donc, toute sexualité, et de son côté, le chemsexeur voilà, va tous les week-ends en partie chemsex, Et il aime, évidemment, son compagnon avec qui il est depuis 25 ans, mais vraiment, c'est une histoire classique. Il n'arrive plus à avoir de désir. Et c'est, en fait, c'est même pas le désir, c'est vraiment un côté seuil d'excitation. C'est-à-dire, pour être excité, en gros, il faut que j'aille en partout, il faut que je me pique, il faut que je fasse des trucs hard. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
J'étais étonnée du pourcentage de slammers que vous receviez. C'est 3% de slammers parmi les. Ça me semble très décevant.
Non, non, c'est pas la slammer que je reçois. C'était, je pense, le pourcentage, 3%, c'était parmi les patients HSH d'une étude.
D'accord. Ah oui.
Voilà.
Parce qu'en fin de compte, enfin, quand même, le texte beaucoup par l'injection.
Tout à fait. Tout à fait. Et vraiment, dans ma consultation, je pense que je suis à 3/4, c'est des stammeurs. Ouais. Les gamsexeurs problématiques sont des stammeurs.
Vous avez parlé que vos patients étaient essentiellement polyagiques.
Oui.
Donc, je pense que c'est un billet de recrutement.
Tout à fait.
Et à la bichard. Est-ce que effectivement les non-VIH est très peur, par définition, les prévoirs de la VIH, est-ce qu'ils consultent ailleurs?
Oui. Alors, bon, effectivement, c'est un peu un effet de manche. J'ai quand même une demi-douzaine de patients qui sont prépeurs, gamsexeurs. Oh, c'est un peu pour essentialiser les choses.
Oui,
tout à fait. Oui, tout à fait.
Si je peux le dire, demandant, mais par exemple, nous, c'est sur le carré, c'est un public assez récent. Enfin, bon, en fait, ça fait quand même quelques années que les personnes viennent. Alors, c'est uniquement pour retirer du matériel, c'est tout. Ça se comprend parce que c'est un public habituel des carrés, des personnes qui sont aussi très, très éloignées de la réduction des risques. Parce que parfois, dans ce genre de soirée, il y a l'infirmier.
Ouais.
Voilà, qui rappelle un peu tout et puis qui va faire d'ailleurs les injections et puis parfois justement avec la même seringue pour tout le monde. Et en fait, c'est aussi que certaines de ces personnes ne se considèrent pas justement comme usagers de drogue. Et là, justement, on arrive de plus en plus à toucher les PMSXers. Et là, pour le coup, je crois que c'est aussi avec le Covid, parce qu'il a eu un peu plus de mal à se procurer du matériel. Et nous, pour le coup, notre programme d'échange de seringues est vraiment resté ouvert tout le long de la pandémie, pendant les confinements et autres. Et là, on a vu arriver, ce n'était pas non plus des centaines de personnes, on a vu arriver quand même quelques secteurs supplémentaires.
Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans le profil actif de patients, j'en ai qui n'ont pas du tout de profil polyaddict. Il y en a, ils ont fumé un joint en soirée au lycée. Enfin, c'est vraiment pas du tout des profils que je pouvais avoir sous d'autres addictions.
Mais c'est pareil sur le cas où nous, les gamsexeurs, on les voit que sur un site, c'est notre programme d'échange de soirée.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Parce qu'en plus, le profil public habituel des carrés, c'est plutôt des personnes insérées, enfin, de moins en moins, pour le coup.
Ouais.
Au début, c'est vrai qu'on accueillait vraiment des hommes très insérés. Maintenant, on accueille quand même plutôt de jeunes hommes de moins en moins insérés,
ouais.
Pour le coup.
Okay. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, David.
Merci
d'être venu. Nous faire cette présentation et on attend des nouvelles du CPP avec impatience.
Ouais. Et donc on va, Joseph, est-ce que tu peux vérifier si tu as la main sur le partage, toi?
Le partage d'écran a été désactivé, il faut que l'hôte, donc sur le PC principal, il faut l'autoriser.
Alors. Et ça, je sais pas.
C'est bon, petite icône.
Normalement, ça doit être bon là.
Effectivement, là c'est bon.
Voilà, super. Donc, pour continuer, on a Joseph Larmarange qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation ce soir pour nous parler des nouveaux enjeux autour de la santé sexuelle et repréciser ce qu'il entend lui par la santé sexuelle et qu'est-ce que ça comporte. Et donc, Joseph est chercheur à l'IRD et merci Joseph d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.
Merci à vous. Donc effectivement, je suis démographe hein, en santé publique et puis je co-préside également le CSS Santé publique et sciences sociales de l'ANRS. Et la présentation de ce soir, en fait, est une reprise d'une présentation plénière qui a été faite à la dernière conférence AFRA-VIH. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de liens qui font référence à la conférence, mais ça vous permet de pouvoir retrouver des communications si ça vous intéresse pour aller plus loin. Et un des enjeux en fait de cette communication-là, c'est de repositionner en fait quels sont les différents enjeux dans la santé sexuelle et qui vont bien au-delà de la seule question des IST et de se remettre. En fait, c'est d'arriver à reprendre à refaire un pas un peu en arrière. Tout comme là, on a une présentation sur le chemsex. Si une majorité des chemsexeurs sont des homosexuels masculins, la majorité des gays ne sont pas des chemsexeurs. Et souvent, c'est aussi d'être vigilant au fait qu'on observe les populations ou les enjeux souvent par l'entrée en fait des consultations ou de ce que l'on a sur le terrain. Alors forcément, hein, je vais quand même démarrer avec la question des infections sexuellement transmissibles, qui sont un enjeu majeur de santé publique. Au niveau mondial, on estime que les chlamydioses, les gonorrhées, les syphilis et les trichomonas, ça représente 374 millions de cas par an dans le monde. Le HSV, ça représente plus de 500 millions de personnes qui sont infectées entre 15 et 49 ans. Sur le papillomavirus humain, on estime que chaque année, c'est plus de 500 000 cas de cancer qui sont liés, du col de l'utérus qui sont liés au HPV, mais c'est plus de 300 000 décès chaque année. La syphilis, en 2016, on estimait que 1 million de femmes enceintes étaient infectées et que ça avait entraîné 350 000 accouchements à issue défavorable. Et enfin, les données OMS montrent aussi un accroissement de plus en plus important de résistance aux médicaments, notamment pour la gonorrhée. Alors, ce qu'on peut déjà regarder, c'est quelles sont les populations qui sont fortement exposées aux infections sexuellement transmissibles. Et à titre indicatif, à la dernière conférence francophone sur le VIH, on a eu des présentations sur les travailleuses du sexe, les homosexuels masculins, les femmes migrantes, les aides ménagères au Mali. En fait, on retrouve un peu les populations que l'on voit souvent dans le champ du VIH, hein, les populations clés. Mais en fait, ça va quand même un petit peu au-delà. Et en fait, il ne faudrait pas avoir une vision limitée aux populations clés du VIH, puisqu'en fait, les IST vont toucher bien plus largement la population générale que ne le fait le VIH. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des choses importantes à faire sur le champ du diagnostic et la prise en charge. Alors vous êtes en Île-de-France, ça peut-être vous paraître étonnant, mais dans la plupart des pays africains, on n'a pas accès à du dépistage de laboratoire de chlamydia, des gonos, de la syphilis. Et donc, en fait, souvent, on se contente de faire un diagnostic sur les syndromes et les symptômes. Et ce diagnostic syndromique ne suffit clairement pas. Là où on voit des choses arriver sur les pays en développement, c'est plutôt avec un focus sur la vaccination du HPV et sur le dépistage du cancer du col, même si encore trop souvent l'entrée, c'est celle des femmes séropositives. Et on voit qu'il y a vraiment un lien entre inégalité, accès aux soins et le cancer du col. Mais il y a quelques nouveaux outils qui arrivent, notamment en France. Il y a notamment OOPS, qui est un outil numérique d'aide au diagnostic qui a été fait pour aider les médecins de médecine générale ou les personnes à faire un petit quiz pour voir si du coup elles auraient intérêt à aller faire un dépistage des IST. Et puis on voit qu'il y a quand même encore des enjeux sur la prise en charge quand on est sur des stratégies avancées auprès des populations. Par exemple, le condylome qui, dans beaucoup de pays africains, on n'a pas forcément accès aux appareils de prise en charge. Alors, sur la santé sexuelle, elle a été un peu remise en avant avec l'arrivée de la PrEP. Et notamment, on a eu ces grands essais hein, PrEP, alors Hyper-Gay en France, poursuivi par Prévenir aujourd'hui, CoMSM en Afrique de l'Ouest. On a vu que dans les cohortes de PrEPeurs, on a une incidence élevée des IST. Alors, d'une part, probablement parce qu'on va sélectionner la population qui est intéressée par la PrEP. Et donc, les gens qui se sont exposés au VIH, qui sont intéressés par la PrEP, sont en partie des personnes qui étaient déjà exposées de manière importante aux IST. Mais aussi peut-être, alors, ce qui est un relâchement de prévention, c'est certain qu'une partie des gens sous PrEP vont arrêter ou réduire leur utilisation de préservatifs qui les expose également. Mais dans tous ces essais PrEP, on a eu des offres élargies en santé sexuelle. qui sont apparus comme nécessaires. Ce qu'on a aussi montré, c'est que le fait d'être sous PrEP, comme il y a un suivi médical, on a un dépistage SIST. Et puis surtout, ils ont montré l'importance aussi de l'accompagnement communautaire dans les offres de PrEP. Mais, et c'est là le gros mais, c'est que finalement, les besoins en santé sexuelle, ça ne concerne pas que les populations touchées par la PrEP. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par la PrEP, mais qui ont besoin d'un accompagnement en santé sexuelle et reproductive. Et puis, on voit que les personnes qui vivent avec le VIH ont, elles aussi, des besoins importants en santé sexuelle. Et donc, du coup, on a pensé, en fait, la santé sexuelle dans les offres de PrEP, dans la suite des essais cliniques. Mais c'est important, en fait, maintenant qu'on a montré que c'est efficace, de repenser les offres de santé sexuelle, en fait, se dire il faut des offres de santé sexuelle dans laquelle on met de la PrEP, mais dont la PrEP n'est pas forcément le point d'entrée pour accéder à ces offres de santé sexuelle. Autre élément dont on commence à parler de, un peu plus depuis quelques années, c'est les enjeux de la santé anale. On sait notamment que plus de 25% des cancers qui sont liés à HPV touchent en fait des hommes. Et on a pu montrer aussi que HPV peut favoriser des cancers de l'anus, du pénis et certains cancers de la sphère ORL. Or, il y a un tabou autour de la sexualité anale, à la fois en population générale, mais également chez les homosexuels masculins qui, encore dans beaucoup de contextes, hésitent à parler de leurs problématiques à ce niveau-là avec leur médecin, y compris dans des consultations qui sont orientées homosexuels masculins. De plus, la sexualité anale, souvent on pense tout de suite homosexuel masculin, mais en fait elle est fréquente chez les femmes et elle est fréquente dans les couples hétérosexuels, alors à la fois de manière générale et puis parfois dans certaines populations un peu spécifiques auxquelles on pense pas toujours. Par exemple, vous avez chez beaucoup de jeunes filles d'origine musulmane qui souhaitent rester vierges jusqu'au mariage, en fait elles vont débuter leur sexualité par une sexualité anale. Cette sexualité anale, au-delà du HPV et d'autres IST, c'est aussi des complications en termes de saignement, de fissures, de condylome et d'infection. Alors, la vaccination HPV, elle a un peu évolué. Alors, notamment en France, elle est autorisée depuis 2006 par l'Union européenne pour les jeunes femmes de 6 à 26 ans. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il faudra attendre 2019 pour qu'elle soit recommandée par la Haute Autorité de Santé en France et 2021 pour qu'elle soit remboursée par la Sécurité sociale pour les garçons. Pour les garçons de 11 à 14 ans, avec un démarrage, un rattrapage possible de 15 à 19 ans, et jusqu'à 26 ans pour les HSH. Alors ça, quelques remarques. Si on s'intéresse aux homosexuels masculins, généralement, le temps qu'ils sachent qu'ils sont homosexuels masculins, c'est trop tard pour les vacciner. Il aurait fallu les vacciner dès 11 à 14 ans, d'où l'importance en fait d'avoir élargi la vaccination universelle des garçons. Mais surtout, cette vaccination universelle des garçons permet de protéger les jeunes filles. Et je vais y revenir, mais en fait, souvent sur un certain nombre de domaines, on oublie qu'il faut aussi lutter contre les normes de genre dominantes et que pour changer les normes de genre, il faut aussi inclure les garçons dans les programmes. Et c'est là ce qui m'amène au cœur de cette présentation, c'est que la santé sexuelle, c'est aussi et avant tout une problématique sociale et une problématique de genre. On sait que les normes sociales et les tabous agissent comme des contraintes sur la sexualité et limitent fortement la parole. Or, on a pu voir dans de nombreuses études qu'il y avait un lien très fort entre précarité sociale, vulnérabilité et exposition au risque. Et le rapport au corps et les représentations de soi influent fortement sur l'accès aux soins et sur l'acceptabilité des différentes offres de santé, de même que les violences sexuelles basées sur le genre vont avoir des impacts sur les accès aux soins. Et donc du coup, si dans un certain nombre de programmes, on commence à prendre en compte les vulnérabilités spécifiques des jeunes femmes auxquelles elles font face, en fait, les hommes sont souvent des oubliés. Or, c'est oublier que la charge mentale de la santé ne doit pas reposer que sur les femmes. Et si à un moment donné, on veut pouvoir faire évoluer les enjeux de santé sexuelle, les enjeux de reproduction et faire en sorte que le poids en fait du prendre soin de soi soit porté à la fois par les hommes dans les couples, il faut également inclure les hommes en fait dans les programmes de prévention, les programmes de prise en charge et les programmes d'éducation. Alors, je veux forcément évoquer la santé reproductive parce que c'est aussi une des dimensions qui fait partie de la santé sexuelle. On a parfois tendance à séparer un peu les deux. Il faut savoir que dans le monde, il y a encore de très nombreuses grossesses non désirées. Ça représente dans le monde à peu près une grossesse sur deux, d'après le dernier rapport du FNUAP qui a été publié fin mars. Et encore dans de nombreux endroits, y compris en France, on observe un faible accès à la contraception, même chez des personnes qui ne souhaiteraient pas avoir d'enfants de suite. Et ce qui pose la question de la multiplication des guichets, on fonctionne hein, dans les programmes en santé, dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, dans les pays africains, beaucoup en silos. Et en fait, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas intégrer santé reproductive et santé sexuelle quand c'est pertinent dans un certain nombre de cas. En France, pour les populations jeunes notamment, mais pas que, il y a eu la fusion des CDAG avec les centres de prise en charge IST, on arrivait sur les CEGID, mais peut-être que CEGID et planning familial pourraient encore être mieux intégrés et qu'on n'est peut-être pas encore totalement au mieux de ce qui se pourrait, de ce qui pourrait être fait et d'avoir du coup des guichets plus simples. On a montré dans d'autres endroits, en Côte d'Ivoire, sur des programmes qui visent les travailleurs du sexe, qu'il faut également prendre en compte la question de la contraception, de la conscience, de la gestion des menstruations. On pourrait parler des coupes menstruelles. On sait que dans de nombreux pays, la principale cause d'absentéisme scolaire chez les jeunes femmes, c'est la gestion des règles et le fait qu'elles n'ont pas accès à des outils de gestion des menstruations. La coupe menstruelle en est un, mais quand vous n'avez pas de toilette avec accès à de l'eau courante, comment faites-vous? Mais voilà. Mais en fait, ces questions-là, elles sont reliées les unes aux autres et penser en fait un problème de santé uniquement par son entrée, souvent est peu efficace. Il faut penser par des entrées populationnelles. Alors, je voudrais revenir aussi sur la définition de l'OMS de qu'est-ce que la santé sexuelle. C'est donc la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Et en fait, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de nous repositionner sur un plan politique et de rappeler que la santé sexuelle, elle est un droit, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, quelles que soient ses pratiques sexuelles entre adultes consentants. Et ça veut dire que la santé sexuelle, c'est aussi le droit à ne pas être victime de rapports sexuels contraints. C'est le droit à une sexualité épanouie. Et une sexualité épanouie, c'est aussi le droit de ne pas avoir de rapports sexuels quand on ne veut pas ou de ne pas exercer certaines pratiques. Et juste pour revenir sur ce point-là, de dire que dans le champ du VIH et de la santé en général, nous sommes très fortement influencés par les enquêtes que nous menons. On a beaucoup d'enquêtes chez les HSH qui ont des pratiques à risque, mais en fait, on ne s'intéresse pas aux HSH qui ont des pratiques, j'allais dire, pépères. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a un mouvement qui se développe, par exemple, pour la sexualité side, qui est le fait qu'un certain nombre de gays n'ont pas envie d'avoir des pratiques anales. Et en fait, ça serait beaucoup plus fréquent qu'on ne le verrait. Hein, donc, le droit à une sexualité épanouie, c'est aussi ce droit-là à avoir des pratiques sexuelles diversifiées et à accéder à la sexualité, pas seulement sous l'angle de la protection des IST. Et c'est aussi le droit au plaisir. Alors, le plaisir sexuel, justement, c'est souvent l'angle mort des recherches qui mettent plutôt l'accent sur les pratiques à risque, hein, je l'ai évoqué. Et comme je vous le disais, beaucoup de travaux sur l'homosexualité ne l'abordent que sous l'angle du VIH, sur les pratiques à risque. Et on va regarder ce qui va se passer avec la nouvelle enquête qui est prévue sur la sexualité en France, qui devrait avoir lieu l'année prochaine, qui va apporter, à mon avis, un certain nombre de choses, notamment parce que pour la première fois, elle va pas avoir de limite d'âge et qu'on pourra aborder plus facilement la sexualité des personnes âgées. Et puis, elle devrait faire, comme l'enquête précédente, explorer aussi la sexualité non pénétrative, qui est une part importante de la sexualité. D'ailleurs, on peut regretter qu'on n'a pas d'enquête similaire en Afrique, qui est là où je travaille le plus. On a des enquêtes de pratiques à risque, des enquêtes connaissances à titre pratique. On n'a pas d'enquête de sexualité ouverte et élargie. Alors, on a abordé un peu la question du plaisir sexuel à l'AFRA-VIH, mais vous voyez, on en parle finalement assez peu qu'à travers un poster discuté sur la vie affective des personnes vivant avec le VIH, encore une fois, une entrée très PVVIH, ou alors sur plaisir et PrEP chez les HSH en France, parce que pour la PrEP, on a pensé plaisir, mais on ne s'intéresse pas forcément au plaisir en dehors de ces cadres particuliers. Et puis alors, celui dont on ne parle pas, c'est le plaisir des femmes, qui un peu partout est peu visible dans la littérature scientifique, mais pas que. Et je voudrais revenir là-dessus parce que, en fait, le plaisir sexuel et même l'anatomie des femmes ont été moins étudiés chez les hommes. Par exemple, il y a eu quelques travaux sur l'anatomie du clitoris. Il aura fallu l'arrivée d'Hélène O'Connell, une urologue australienne, pour qu'on revienne sur l'anatomie du clitoris et surtout qu'on arrive avec une représentation 3D du clitoris, mais qui date finalement, cette image que vous avez là, ne date que de 2016. alors qu'on a des représentations 3D et l'anatomie en détail du pénis depuis plus de 100 ans, et la représentation 3D du clitoris ne sera entrée dans les manuels scolaires qu'en 2017. Et en fait, on se rend compte qu'on a encore une proportion élevée de jeunes femmes qui ont une très mauvaise connaissance de leur anatomie ou de leur cycle menstruel. On n'a même pas parlé d'une connaissance de leur plaisir et de ce que c'est qu'un orgasme féminin. Et je vous le disais déjà, l'éducation à la sexualité, elle est trop souvent centrée sur les risques infectieux, sur la contraception, donc dans une vision vraiment centrée sur les risques sanitaires et finalement très peu positive sur l'épanouissement de soi et la manière dont on peut avancer dans la vie. Je voudrais quand même mentionner rapidement les mutilations génitales féminines, qui restent encore un problème aujourd'hui. On parle de plus de 200 millions de victimes dans le monde. Et en France, on estime que ça représente 125 000 femmes, dont 38 000 femmes qui sont nées en France et qui ont été victimes de mutilations génitales féminines. Sachant que les MGF sont sous-diagnostiquées et souvent, ni les femmes, ni même leurs médecins traitants ne sont au courant qu'elles ont été victimes de mutilations génitales. Or, c'est une violence qui a encore des complications multiples, perte de plaisir, rapport sexuel douloureux, douleur, hémorragie, accouchement difficile. On avait eu à la FRAVI, on en a un tout petit peu parlé sur une complication associée aux mutilations génitales au Sénégal. Ça a des conséquences psychologiques importantes et c'est aussi une des dimensions de la santé sexuelle. Au final, ce que j'ai surtout voulu montrer, c'est que la santé sexuelle, c'est avant tout un objet multiple. C'est bien sûr les infections sexuellement transmissibles, mais c'est aussi la santé anale, la santé mentale, le bien-être, la santé de la reproduction, la question sociale et des questions de normes et de tabous. C'est avant tout un droit humain et des droits sexuels. C'est une problématique de genre. C'est la lutte contre les discriminations, les violences. Et puis, c'est aussi un droit au plaisir et à une vie sexuelle épanouie. Alors, quelques pistes d'action. Rappelez qu'un des enjeux, en fait, dans le champ de la santé sexuelle, c'est de développer un environnement favorable par la promotion d'actions visant des changements structurels et sociaux. Ça veut dire que ça passe aussi par un plaidoyer contre les législations qui discriminent encore les personnes en raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur pratique sexuelle. Là, on est sur le champ des droits humains. C'est rappelé depuis 30 ans, notamment dans le champ du VIH, mais c'est toujours une problématique aujourd'hui avec des pays où parfois les situations se dégradent. C'est aussi promouvoir une éducation aux sexualités pour toutes et pour tous, qui soit ni jugeante ni stigmatisante, dans le respect des identités de chacun et de chacune, ce qui n'est pas toujours évident, et on se heurte encore à des représentations très fortes sur la sexualité. C'est aussi lutter contre les inégalités fondées sur le genre et appuyer les programmes qui vont dans ce sens. Et c'est aussi intégrer cette question-là dans la formation des professionnels de santé, aux questions de santé sexuelle, mais aussi à la question de la diversité des sexualités et des identités de genre. Ça peut paraître banal, mais ce cadre structurel, il est essentiel. On ne pourra pas avancer si jamais on n'avance pas là-dessus dans le même temps. Et on sait qu'on est sur des changements sociétaux qui vont prendre 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'est aussi développer des offres en santé sexuelle accessibles, adaptées à toutes et à tous. Alors, vous avez, vous, forcément, dans vos pratiques, une connaissance de ce type d'offres et vous en mettez en œuvre chacun et chacune à votre niveau. Mais c'est, de manière générale, de privilégier une approche holistique de la santé qui peut inclure les différentes dimensions de la santé sexuelle. C'est aussi penser à la population générale, notamment les jeunes, où on peut essayer de combiner santé sexuelle et santé reproductive, mais c'est aussi d'inclure les hommes dans les programmes de santé pour faire évoluer les normes de genre. Je dis ça dans un contexte où le PEPFAR ou le Fonds mondial financent avant tout des programmes pour les adolescentes en Afrique subsaharienne, et ce qui fait que les garçons ne sont pas amenés à remettre en cause leur propre représentation de normes. Et puis, pour un certain nombre de populations vulnérables, qui sont celles aussi qu'on connaît bien dans le VIH, hein, les travailleurs du sexe et les HSH, c'est aussi de pouvoir appuyer des cliniques communautaires et d'essayer de combiner la prise en charge clinique et l'accompagnement communautaire. Alors, quelques exemples que vous connaissez probablement, c'est le SPOT. Il y a celui de Aide à Paris, celui de Aide à Marseille, qui ont essayé de combiner du coup accompagnement communautaire et accompagnement clinique avec du coup des offres qui sont relativement diversifiées, dépistage du VIH, la PrEP, la dictologie, les consultations psy, sociales et les parcours de transition. C'est aussi de penser, là je vous présente les cliniques mobiles princesses qui sont des cliniques qui opèrent sur les sites de prostitution en Côte d'Ivoire. On a essayé de combiner un suivi chronique à destination de travailleurs du sexe avec à la fois la prise en charge et le dépistage VIH et hépatite B, mais aussi la PrEP, le dépistage des IST, syndromique et PCR, et une approche par contraception. Et pour être honnête, ça marche que moyen, parce qu'on en fait trop, et qu'en fait, on se rend compte que pour des personnes qui sont pas malades, il faut alléger la prévention, il faut alléger le suivi. On est sur des populations qui sont dans un contexte de pauvreté, qui cherchent à travailler et qui n'ont pas forcément le temps de passer autant de temps dans nos consultations. En France, vous avez le projet MACACI qui est porté par Afrique Avenir Arcat avec l'IRD pour la partie recherche, qui essaye de développer une intervention de mise en place innovante dans la rue et sur les lieux de passage, d'empowerment des populations migrantes pour essayer d'aider les personnes précaires originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes à connaître et à utiliser les ressources sociales ou de santé disponibles. On le voit bien en Ile-de-France, on a des offres qui sont diversifiées de santé, mais on n'arrive pas forcément à avoir ces populations qui rentrent. Donc, prévenir, on a essentiellement des HSH qui viennent chercher la PrEP. Et qu'est-ce quid des travailleurs du sexe, quid des migrants? Et là, cette expérience, elle est assurée par des professionnels, des médiatrices de santé, qui cherchent à réaliser des entretiens, des orientations actives vers les services sociaux qui sont existants et proposer aussi un accompagnement. Et puis, pour prendre un autre exemple de clinique sexuelle, cette fois-ci au Mali, avec la clinique des Halles de Arcade Santé Plus, qui avait démarré avec une offre en 2010 qui était vraiment autour de la sensibilisation et le dépistage des IST et l'accompagnement communautaire, qui a pu élargir son offre avec des consultations en proctologie, vaccination hépatite B, PrEP, dépistage du cancer du col et différents types d'ateliers, ateliers de santé sexuelle et accompagnement violence de genre. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'accompagnement communautaire, alors avec ses hauts, avec ses bas, et sachant qu'il y a plusieurs modes d'organiser l'accompagnement communautaire, malgré tout, il a un rôle essentiel qui est joué par les pères éducatrices et par les pères éducateurs qui peuvent améliorer l'accès aux services de dépistage, de prévention et de soins des populations clés. Donc, il faut vraiment trouver comment on articule accompagnement communautaire et accompagnement clinique. Et ce qui pose question dans un certain nombre de contextes, c'est sur le statut et le rôle de ces accompagnateurs communautaires qui ne sont pas toujours reconnus et qui ne sont pas toujours indemnisés et qui est une vraie problématique. Alors, juste pour mentionner qu'à Marseille, pendant la conférence à Fravi, il y avait eu l'appel de Marseille sur la santé sexuelle et vous pouvez toujours aller signer cet appel sur le site de la Fravi. Et je voudrais finir par quelques informations sur la question de l'empowerment en santé sexuelle. Ce qu'on voit, c'est que la santé sexuelle n'est pas seulement un problème d'offre, c'est aussi un ensemble d'éléments qui entravent la capacité des personnes à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits. Et en fait, le pouvoir d'agir, ça implique la possibilité de choisir, la capacité à décider en fonction du choix et la capacité à agir en fonction de sa décision. Et donc, en fait, le processus d'empowerment, ça représente un changement. C'est le fait de pouvoir exercer sa capacité à faire des choix dans un contexte qui prive les personnes de cette possibilité de faire des choix. Et donc, l'élément central du processus d'empowerment en santé de manière générale et en santé sexuelle en particulier, c'est la participation. Car c'est par la participation que chaque personne prend conscience de ses compétences et de ses connaissances et acquiert l'estime d'elle-même nécessaire pour se sentir autorisée et légitime à décider pour elle-même, puis à agir en fonction de ses propres décisions. Pour conclure, la santé sexuelle, comme on l'a vu, n'est pas que la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Elle est multidisciplinaire. Dimensionnelle, bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Elle est aussi et avant tout un droit, quelles que soient ses identités et ses pratiques. Et elle nécessite du coup un environnement favorable, légal et sociétal, des offres accessibles et adaptées, ni jugeantes ni discriminantes, et qui incluent un accompagnement communautaire quand c'est possible pour les populations les plus vulnérables. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Joseph. Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh ben, il n'y a pas de questions.
Je pense qu'il est tard et que tout le monde a envie d'un apéritif.
On n'a pas fini. On a encore Roland. On a Roland qui va... Ah si, il y a une question. D'accord, c'est d'abord Sylvie. Ok, très bien. Merci encore, Joseph. On va continuer, nous, avec du coup Sylvie qui va nous faire le retour d'activité de la commission usagée de substances psychoactives.
Oui, est-ce que vous passez la main de côté?
D'accord. Il y a des diapos ou pas?
Oui, on a des diapos.
Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Dorothée Pierrard, je suis la directrice du Caridego de l'association Aurore. Et puis, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter voilà, ce qu'on a pu faire dans la commission substances psychoactives de la Corévie depuis maintenant quelques années. Pour commencer, peut-être très rapidement, une présentation des caries et des XAPA, ou au moins en tout cas des caries, parce qu'on est allé, on a travaillé plus en direction du public caries que XAPA. Donc les caries, c'est les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. On a différentes missions qui sont imparties par la loi. Vous les voyez, donc c'est l'accueil collectif, individuel, des informations, conseils personnalisés. C'est de l'accès aux soins. Donc ça, l'accès aux soins, ça peut passer aussi bien par les orientations vers les dispositifs spécialisés, notamment les XAPA, mais pas que. Ça passe aussi par du dépistage. Et ça, nous en proposons donc sur le CARUD. Et notamment de différentes façons. Donc, on peut proposer aux personnes accueillies des TROD, VIH, VHC et maintenant VHB. On peut proposer aussi des dépistages par prélèvement sanguin. Là, donc, on a une association qui vient en proposer. C'est tous les deux mois sur le CARUD, donc c'est Arrêt Média. Et puis enfin, on a deux outils qui sont le FibroScan et le GeneXpert, donc qui sont quand même vraiment des outils, enfin de tous ces outils, hein, que ce soit les TROD notamment. En plus, on peut s'imaginer qu'avec un public usager de drogue actif et notamment beaucoup d'injecteurs, les personnes n'ont pas trop de soucis à se faire prélever. Mais si, en fait, alors bien évidemment. Parce que certaines personnes ont vraiment plus de veines et c'est très très compliqué de les prélever, mais il y a quand même certaines personnes qui n'aiment pas du tout les piqûres. Donc voilà. Et puis quand même les TROD, c'est vrai que pour nous ça reste un super outil de réduction des risques, où on va pouvoir discuter avec les personnes justement des modes de consommation, des prises de risques, mais aussi des prises de risques donc en lien avec les produits, mais aussi les prises de risque sexuelles. Et voilà. Donc après, voilà, il y a tout ce qui est accès aux droits, mise à disposition de matériel. Donc ça, c'est important. Et c'est peut-être aussi sur la mise à disposition de matériel tout à l'heure. C'est ce que je disais avec la présentation du docteur Duroy, c'est qu'on va pouvoir voir un public un tout petit peu plus hétérogène sur notre programme d'échange de seringues que vraiment sur les carudes. Et puis après, il y a des grands principes donc, qui régissent les CARUD. C'est donc l'anonymat et la gratuité. C'est ce qu'on appelle le bas seuil d'exigence. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne va avoir des demandes en direction des personnes. Une personne vient nous dit « j'adore le crack ». Bon, super. Tu adores le crack, donc tu te vois les personnes sur le CARUD. Et nous, notre mission, donc la réduction des risques, c'est de faire en sorte que cette consommation ait donc le moins d'impact négatif possible sur la vie des personnes. Donc, que ce soit bien évidemment sur la santé, sur le volet social, sur l'entourage, mais aussi sur l'environnement des personnes. Et puis, avoir aussi cette relation horizontale, parce que voilà, nous ne sommes pas tous consommateurs, les professionnels des CARUD. Et ce que nous savons, nous l'avons appris notamment avec les consommateurs. Et puis après, bien évidemment, il y a la question du non-jugement et l'idée, c'est donc de pouvoir favoriser le lien. Là, vous avez une diapo, c'est quelques chiffres. Ce qu'on peut retenir, c'est que là, sur le Caridego, on a en 2021 une file active donc de 5800 personnes. Ce qui fait beaucoup de monde. Après, ça va être des personnes aussi bien qui peuvent venir une à deux fois dans l'année que des personnes qui vont venir très, très régulièrement. Je le disais tout à l'heure, dans les CARUD, nous n'accueillons pas tous les consommateurs de drogue. Et d'ailleurs, on accueille une toute petite partie des consommateurs de drogue. Parce qu'en fait, les consommateurs de drogue La plupart, en fait, sont insérées. Les personnes ont un chez-elles, travaillent, ont une vie familiale ou peu importe. Mais en tout cas, elles vivent assez bien leur consommation. Dans les cas rudes, on va vraiment accueillir des personnes en situation de très grande précarité. Il me semble que sur les derniers chiffres, ça n'est pas là, mais on était aux alentours de 85% de personnes sans domicile fixe. Et puis, on va être aussi avec des personnes qui vont cumuler les problématiques. Donc, en effet, il va y avoir les problématiques sociales, les problématiques aussi administratives avec beaucoup de personnes qu'on accueille en situation irrégulière. Des problématiques de santé, notamment des personnes avec des troubles psychiatriques et qui ne sont pas pris en charge. Et là, peut-être qu'on reviendra dessus juste à la fin, justement, dans les perspectives. Et puis, à peu près sur le profil des personnes, vous avez aussi complètement, donc là, sur la gauche, les produits consommés. Peut-être, je ne l'ai pas dit aussi, nos établissements sont situés dans le 18e arrondissement, essentiellement sur le quartier de la Goutte d'Or. Après, on a aussi à Porte de la Chapelle. Et puis, nous avons aussi une équipe mobile qui est essentiellement dans les 18e et 19e arrondissements, bon, là, qui est essentiellement sur le 19e arrondissement à la Porte de la Villette, voilà, comme vous l'imaginez. Et donc, ça va être un public essentiellement polyconsommateur, très peu de personnes qui consomment un produit. Donc, beaucoup de personnes qui vont consommer du crack. En fait, l'immense majorité des personnes qu'on accueille consomment du crack et puis vont consommer d'autres produits à côté, soit justement pour gérer la descente, ou soit pour avoir d'autres effets.
Avec Aurore et avec le Corévie, en fait, donc la commission LFA a été créée en 2012. Et depuis 2014, elle est pilotée par Sylvie Larven du SMIT. Et elle intègre en fait une personnel des Carrudes Ego, Carrudes Boréal et des personnes du SMIT et du Corévie de France Nord. Voilà. Donc, je te laisse.
J'ai rejoint la commission en 2015 et avait juste commencé un travail justement sur les orientations qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai qu'au Carrudes, on se posait pas mal de questions déjà sur les dépistages qu'on pouvait proposer parce qu'on a commencé dès 2011 à pouvoir trotter les personnes sur le VIH. Et puis, on a un XAPA. C'est pour ça que j'ai fait aussi la différence entre Carrudes et XAPA. Parce que ce n'est pas la même démarche d'aller dans un Carrudes que d'aller dans un XAPA où là, vraiment, on a une demande de soins. Et puis, on s'est aperçu que pour les personnes au XAPA, il n'y avait pas vraiment de soucis parce qu'il y a des médecins et autres. Mais par contre, au Carrudes, c'était un peu plus compliqué. Donc, en fait, on a mené une enquête pour voir un petit peu comment ça se passe avec les usagers. Donc, c'est une enquête qui a été menée auprès de 200 personnes pour voir un petit peu quels étaient les besoins en termes de dépistage, en termes de vaccination, mais surtout en termes de traitement. C'est-à-dire ce qui se passe après le dépistage en cas de résultat positif. Et puis, sur ces 200 questionnaires, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 75,5% de personnes qui avaient été dépistées dans l'année. Donc, ce qui est quand même beaucoup, parce qu'on imagine souvent les usagers de drogue créer des affiliés et autres. C'était plutôt une bonne nouvelle. Mais après, la mauvaise nouvelle, c'est que on s'apercevait aussi que certaines de ces personnes... Alors, quand je mets 75%, je parle aussi bien VIH et VHC. Voilà. Et par contre, on s'est aperçu que sur le traitement, le suivi de ces personnes, c'était beaucoup, beaucoup plus flou. Suite à cette enquête, en 2015, on a mis en place un parcours avec l'hôpital, Bichat, pour justement faciliter l'accès aux soins et aux traitements des personnes les plus vulnérables. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir pallier aux inégalités de traitement Et puis aussi, c'est que moi, j'apprécie énormément mes collègues du XAPA et je trouve qu'ils font un très bon travail. Mais l'idée, ce n'était pas de se dire on dépiste une personne et en fait, on va l'orienter au XAPA. Parce que ce n'est pas une demande de soins en addicto, en effet, de se faire traiter. Et donc, c'était que tout le monde puisse avoir accès à ces traitements. Alors après, on reviendra, mais quand je parle des traitements, évidemment, il y a le VIH, mais ce qui va aussi énormément concerner les personnes qui sont accueillies sur nos sites, ça va être l'hépatite C. Et donc, ces orientations, l'idée, c'était que nous puissions dépister et puis après, pouvoir orienter facilement. Donc là, on a mis en place une fiche d'orientation vraiment très, très simple avec une possibilité d'appeler rapidement le secrétariat, parfois Sylvie, en direct, pour avoir justement aussi des délais très raccourcis. Parce qu'on sait qu'avec le public qu'on accueille, on peut très vite perdre de vue la personne et puis là, se dire, on a loupé quelque chose. Bon, OK, la personne est au courant de son statut, donc c'est déjà la priorité pour nous. Mais après, ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse quand même accéder aux soins et à un traitement. Donc, l'idée, c'était d'avoir aussi ces délais très, très courts. Et puis, on a essayé de mettre en place aussi des accompagnements physiques. Parce qu'on s'aperçoit aussi que c'est souvent compliqué pour les consommateurs les plus vulnérables aussi, de venir à l'hôpital. Parce que certains n'ont pas forcément de très, très bonnes expériences avec l'hôpital ou simplement ça leur fait peur. Et donc nous, pour assurer, on a essayé de mettre en place ces accompagnements physiques. Il y avait aussi quelques accompagnements qu'on a fait avec des personnes et notamment dans le public. Et on accueille pas mal de Géorgiens sur le Carud. Et pour le coup, c'est un public qui a vraiment accroché. Avec ce parcours, par rapport à ce qu'il représente dans la file active du Carud, ils étaient très nombreux à accrocher au parcours, mais par contre, il y a le problème de la langue. Donc voilà, et heureusement, il y a Google Trad qui fonctionne quand même plutôt pas mal, mais nous, pour le public qui avait vraiment du mal à s'exprimer, à comprendre, l'accompagnement physique était important parce que ça permet de revenir avec la personne un peu plus tard justement sur ce qui s'est dit et y compris pour les personnes qui maîtrisent complètement le français, mais de se dire on va en rediscuter ensemble et puis aller un peu plus dans la durée.
Donc du coup, je vais faire un petit bilan des orientations vers Guichard. Donc c'est depuis 2016, il y a eu 69 personnes qui ont été orientées pour une consultation à l'hôpital Guichard. Donc l'orientation ne veut pas forcément dire qu'il soit nous, mais en tout cas, donc, principalement Aurore et Go, aussi Boréal et les Sleeping principalement. Donc là, on détaille surtout la prise en charge VHC parce que c'était surtout ça la demande initiale. Donc sur les personnes orientées, il y avait 6 guérisons spontanées. Il y a juste un patient qui est suivi pour une co-infection VHB, VHD et VIH toujours en cours. Il y a 34 personnes qui sont vraiment venues à l'hôpital Guichard au moins une fois. Sur ces usagers, il y en a 11 qui ne sont plus revenus, donc peut-être qu'ils sont suivis ailleurs ou non, je ne sais pas. 21,
on aimerait bien, mais voilà, c'est pas grave.
Il y en a 21 qui ont été traités, une personne qui est décédée avant le début du traitement, une personne atteinte de traitement, et parmi ceux-là, il y en a un qui était d'abord suivi pour une tuberculose. Et il y avait 4 personnes co-infectées pour VHB et 6 personnes co-infectées avec le VIH. Il y a eu 2-3 de faux positifs, mais à Guichard, toutes les sérologies étaient négatives, mais on a quand même un qui est toujours suivi pour les IST et une mono-infection VHB. Et pour ceux qui ne sont pas suivis à Guichard, en fait, il y en a qui ne sont pas venus, il y en a 5 qui sont suivis ailleurs. Et 5 qui sont suivis en XAPA, et il y en a 2 qui ont fini leur traitement et qui sont bien qui sont guéris. Voilà. Donc sur les traitements à Guichard, il y avait essentiellement Epclusa et Mavirette. Sur ces 21, il y en a 14 qui ont une réponse virologique prolongée. Il y en a 3 qui ne sont pas revenus pour la PCR à la fin du traitement et 3 qui ne sont pas revenus pour savoir si la réponse virologique a été prolongée. Et là, on a dépassé en tout cas les 6 mois qui permettraient de dire. Donc, si revenus. Voilà. Et il y a eu un échec sous mon direct.
Ouais, après, alors sur l'évolution des orientations, c'est vrai qu'on, je pense qu'on a, enfin, même pas je pense que c'est un fait, qu'on a beaucoup plus orienté au début les premières années, et puis là beaucoup moins ces dernières années. Donc ça s'explique de différentes façons. Il y a eu clairement des difficultés au dépistage. Donc ça, c'est voilà, ça s'explique de différentes façons. C'est que nous, on a aussi eu on a de gros turnover dans les équipes, hein, mais bon, ça c'est assez connu, hein, dans les équipes Carud. Et puis là, avec la pandémie Covid, en fait, on n'a pas pu former de nouveaux collègues. Donc, ce qui fait que nous étions, je crois, alors qu'avant, nous étions presque 15, maintenant, nous étions 3 à pouvoir trôder, dont moi qui suis maintenant plus beaucoup sur le terrain. Donc forcément, on a moins dépisté, malheureusement, et donc moins pu orienter les personnes. Je l'ai glissé aussi, mais c'est que c'est tellement important pour nous. D'accord.
Si on peut laisser le temps à Roland.
Alors, je vais vite. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on peut se dire, voilà, sur les trodes, au niveau du VIH en 2021, on a eu 0 découverte. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles découvertes. Donc, ça, c'est vraiment un succès de la réduction des risques. Ça fonctionne bien. Pour le VHC, bon, 5 positifs sur 99. Donc, c'est quand même beaucoup moins que ce dont on avait l'habitude. Et puis, voilà, sur les freins aussi, ça va être vraiment les personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères et qui ne sont pas traitées, et là, pour lesquelles on a beaucoup, beaucoup de mal à orienter, ou alors vraiment, ça va être des problèmes de couverture médicale où on n'arrive pas du tout des situations inextricables ni avec l'AME ou autre. Et en revanche, c'est ce que je disais l'autre jour, quand même, où c'est un peu important. Là, on voit que l'injection revient beaucoup, y compris sur les sites des scènes de consommation. Donc là où il peut y avoir aussi beaucoup de prises de risques. Et en 2021, alors parce que ce n'est pas nous qui avons fait la découverte, donc je ne l'ai pas mis là, mais il y a eu quand même 2 personnes qu'on connaît très bien et qui étaient connues depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Par nos services des contaminations VIH. L'autre action de la commission, ça va être la mise en place de formations. Donc, on a pu mettre en place des formations en direction au début du personnel du SMIT. Et puis ensuite, c'est peut-être pas celle-là d'ailleurs. Formation. Très bien. Ouais. Eh ben, parfait. Donc sur les formations, l'idée de ces formations, c'était vraiment de pouvoir avoir un lien entre l'hôpital et la ville. Parce que parfois, en tout cas, nous, la ville, on peut se sentir un peu seul. Mais j'imagine que vous, à l'hôpital, vous vous sentez aussi un petit peu seul face à des situations très, très compliquées, des personnes qu'on imagine aussi très désaffiliées, qui n'ont aucun lien. Mais en fin de compte, il faut se dire que les consommateurs de drogue, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils trouvent du matériel. Donc, ils ont forcément un lien avec les structures. Et puis, comme je le disais, on a aussi des maraudes, des équipes mobiles. Donc, on va en direction de ces personnes-là. Donc, c'est peut-être pour voir aussi voilà, comment on peut travailler ensemble. C'était aussi, nous, pour aussi bien le personnel du SMIT que là, les infirmiers des urgences. L'un des objectifs était aussi améliorer la connaissance sur les produits, sur le vécu des personnes, sur aussi les différents dispositifs qui existent, que ce soit XAPA, Carud, et puis aussi qu'on puisse travailler ensemble sur nos représentations, parce que nous avons tous des représentations. Et donc, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin. Et là, nous continuons pour le coup les formations en direction des urgentistes. Ah ben, si, là,
oui,
c'est là.
Oui, oui, oui. Très bien.
Oui, donc il va nous. Oui. Ça, c'était la.
Ouais. Voilà. Du coup, il y avait aussi comme action des journées de sensibilisation. Donc, il y en a eu une en 2018. On n'a pas pu la renouveler après à cause de plein d'événements, dont le Covid. Donc, cette journée de sensibilisation a eu lieu en 2018 avec une communication à l'hôpital. En fait, c'était une journée pour informer le personnel de l'hôpital, mais aussi les usagers qui pouvaient passer dans le hall. Donc, il y avait l'équipe de psychologie d'addiction de Bichat, le Corévi, le SMIT, les Carus de Ego, Boréal, et aussi le CGD. Donc, ça permettait une information. Et de toute façon, vous êtes présents à toutes les journées du 1er décembre. Donc, voilà. Voilà.
Et donc voilà, sur les perspectives, donc c'était bien évidemment continuer les formations aux urgences, mais peut-être aux autres services de l'hôpital. Mettre en place, parce qu'on n'a pas réussi depuis longtemps, mais parce que le Covid est aussi passé par là, donc mettre en place une journée de sensibilisation là, vraiment en direction des étudiants de la fac de médecine. Parce qu'on sait aussi que il y a quand même beaucoup de prise de risque quand on est étudiant et que c'est bien de pouvoir parler produits. Il y a un travail autour du chemsex et voilà comme je le disais, nous c'est un public qu'on voit arriver un peu plus, je vais dire massivement, c'est quand même pas le mot, mais qu'on voit arriver plus en nombre sur le Carud. Et puis après, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue ce travail et parce que nous, on est toujours face à des difficultés d'orientation des consommateurs vers le soin. Alors là, je parle du soin vraiment en général, mais après, vers la psychiatrie, où là, c'est extrêmement compliqué. Voilà, je vais faire le...
Merci beaucoup. Alors, on ne pourra pas prendre des questions, on discutera
très bien.
Tout à l'heure au buffet si vous avez des questions. On pourra laisser la parole à Roland pour la commission Epidemio.
Oui.
Merci. Bon, alors j'ai la lourde tâche de terminer et vite, parce que c'est pénible. Bon, donc, comme vous le savez, la commission épidémio, c'est la surveillance des données épidémiologiques au niveau de la Corévi, la Corévi de France Nord. C'est un gros travail de toutes les techs, de data managers, pour recenser toutes les données et améliorer surtout la qualité de nos données. Donc, ce qu'on peut dire. Évolution de la file active de la Corévi 2020-2021. Si vous regardez la colonne de droite, ça a peu évolué. 1500 personnes sont à peu près suivies dans notre Corévi Île-de-Nord. Il y a le gros centre de Bichat, les autres centres. Vous voyez que c'est quand même très stable sur les deux années. Répartition par genre et par site. On a une population transgenre un peu assez spécifique. Sur l'hôpital Bichat, qu'on connaît, avec une file active de 7,5% de nos personnes. Au niveau de la Corévi, c'est 4,6%. Vous voyez, hommes, femmes, répartition globalement, très légère nombre d'hommes. Et en 2020, ça a une petite augmentation dans la population transgenre par rapport à 2020. Et globalement, ça ne bouge pas tellement. Je ne sais pas d'où vient ce petit gribouillage. Bon, bref, c'est dommage pour le travail sur les diapos. L'évolution de la file active, on l'a vu. Je suis revenu en arrière, excusez-moi. Donc, les répartitions par tranche d'âge. Donc, vous voyez ici, sur l'ensemble de la file active, vous voyez la population la plus représentée, c'est cette tranche des 50-60 ans maintenant. Donc, une population qui a vieilli avec l'évolution de la prise en charge de vos patients. Vous voyez que le nombre de patients qui ont plus de 60 ans, c'est pas négligeable, hein, c'est à peu près 17% de la file active de patients qui ont plus de 60 ans, ou même des patients très âgés. Alors ça, c'est la répartition par pays de naissance. Donc, c'est une notion qu'on connaît sur la Corévi de France Nord, avec près de 50% de patients d'origine d'Afrique subsaharienne, 26% de France métropolitaine, 6,8% d'Amérique latine, 6% du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, la notion importante, c'est aussi la répartition, le statut immunitaire de nos patients, à quel niveau de T4 ils sont actuellement, sur le nombre qu'il active de patients anciens. Donc, on a quand même soit près de 70% de nos patients qui ont une immunité, voilà, on va dire relativement élevée et sauvegardée, à plus de 500 CD4. Vous voyez quand même qu'on a une population qui reste très problématique, à moins d'un 1% de patients qui ont moins de 50 CD4, et des patients qui restent problématiques, 3,4% entre 50 et 200 CD4, qui peuvent poser potentiellement des problèmes. Alors, la répartition par mode de contamination et par site, bon, chacun s'y retrouvera dans son propre site, mais globalement, vous voyez 62,8% de contamination pour hétérosexuels, 26% homosexuels, le reste c'est marginal, ça reste toujours présent. Voilà. Alors, bon, on va revenir un peu à de la thérapeutique, c'est important quand même de ce qu'on fait dans le quotidien, dans la prise en charge des patients. Les fameuses trithérapies, monothérapie ou bithérapie, on a une augmentation. Globalement, la trithérapie reste le gold standard, puisque vous avez sur l'ensemble de la Corévie 78% des patients traités depuis plus de 6 mois qui sont sous trithérapie. On a une augmentation des bithérapies qui sont maintenant à 17%. Il y a une augmentation en gros, je vais vous dire, d'à peu près 4% par rapport à l'année dernière. Et puis, on a encore du reste de multithérapie ou de monothérapie. En sachant que 80, voilà, c'est quand même des chiffres qui restent très trithérapie, très, d'une certaine façon, très classique. Alors, si on regarde en détail un peu sur les trithérapies et les bithérapies, sous les trithérapies, alors, on voit qu'on a une diminution très importante pour ceux qui ont connu largement les années précédentes des trithérapies avec IP boosté, qui représentent plus que 14% de nos files actives. Essentiellement, ce sont des patients qui sont sous anti-intégrase pour 50% d'entre eux, ou des patients qui sont sous analogue non nucléosidique pour 31% d'entre eux. Concernant la bithérapie, donc les 17% de patients sous bithérapie, essentiellement, c'est des patients qui vont avoir ici, ça va être essentiellement des patients qui sont sous Juluca, donc en anti-intégrase et non nuc. On commence à voir, mais ça c'est censuré à fin décembre 2021, des patients caborilpi injectables. En fait, on peut juste dire que maintenant, c'est double. Donc, on a dépassé la centaine. Et on a des patients qui ont un nuque, une anti-intégrase, 39%, c'est les Dovato et autres, et toute forme d'autres bithérapies, d'autres combinaisons, qui représentent quand même 242 patients. Donc, il y a une évolution qu'on voit chaque année sur l'évolution des stratégies de traitement. Alors, le suivi virologique des patients, donc c'est un peu la cascade. Donc, la cascade, c'est juste pour vous dire que globalement, on a parmi les patients qui sont sous antirétroviraux depuis plus de 6 mois et qui ont une charge virale indétectable à moins de 50 copies, ça représente à l'heure actuelle près de 90% de nos patients. Donc, on est à l'objectif d'IOMS, on devrait être plus que ça. Et on n'a pas une grande variation entre 2019, 2020, 2021. C'est-à-dire que les patients, une fois qu'ils sont dans le soin, on atteint les objectifs. Alors, ce qui me semble important, c'est le travail qui a été fait cette année sur les infections des hépatites B et C. On peut dire qu'on est sur on va vers la victoire. Hein. On va le dire comme ça. Quand même. Si on regarde la file active de nos patients qui sont antigènes HBS+, au départ, c'est 5,5% de la file active, c'est-à-dire 469 patients sur les 8597. Parmi ceux-là, il y en a déjà 82,5% qui ont des PCR ADNB qui sont négatives, d'accord? Et ces patients sont tous traités, d'accord? Donc, on a ces patients qui ont des PCR négatives sous traitement. On a encore quelques patients, vous voyez, 26 patients qui sont toujours répliquants, donc 5,5%. Et parmi ceux-là, 23 sont traités. Donc voilà, il y a quelques échecs, on pourra rentrer dans le détail parce que c'est des patients qui viennent de commencer leur traitement, qui ne sont pas encore tout à fait indétectables, etc., etc. Et globalement, on est sur la fin de l'épidémie, en tout cas la fin du non-contrôle de l'épidémie de la co-infection hépatite B, hépatite et VIH. Concernant l'hépatite Delta, vous voyez que 50% des patients sont des. Il y a 6% d'anticorps anti-delta totaux sur cephylactive d'hépatite B qui sont positifs. 50% d'entre eux sont PCR-DNA hépatite delta négatif. 32% sont hépatite delta positif. Et maintenant, avec l'arrivée des traitements, 66% d'entre eux sont traités. Pour l'hépatite C, on part d'une file active de 7,3% de nos patients qui sont co-infectés C-VIH, donc c'est 628 patients. Là aussi, gros succès, puisqu'on a sur ces patients des PCR-VHC qui sont devenus négatifs pour 86% d'entre eux. On a eu des nouveaux dépistés, avec, vous voyez le chiffre des nouveaux dépistés, c'est 2,1%, c'est 13 patients sur l'année 2021, donc c'est très très peu de patients nouveaux dépistés pour l'hépatite C hein, qu'on arrive à récupérer. Et sur ces patients, il y en a certains qui vont guérir à sous-traitement, d'autres des guérisons spontanées. Et pour les patients qui sont toujours PCR-VHC positifs, les 4,9%, il en reste 31. Certains sont traités, certains ne sont pas encore traités pour différentes raisons, mais on voit bien qu'on est sur du résiduel. Voilà, donc globalement, on est sur, pour moi, quasiment la fin de l'épidémie des co-infections B et C. On va avoir du fil de l'eau, au fil de l'eau, toujours quelques cas par-ci, par-là, qui vont arriver. L'activité de recherche clinique, on peut aboutir dès demain toutes les techs, tout le monde qui est ici, tous les médecins qui ont participé. Elle est restée extrêmement active, surtout sur les cohortes, dans le VIH, sur des cohortes et enquêtes institutionnelles pendant l'année 2021, si on compare à l'année précédente, à 2020. Il y a eu beaucoup de cohortes, y compris les cohortes industrielles, des essais institutionnels du VIH avec beaucoup de patients. Et bien entendu, il y a l'effet des enquêtes sur l'année 2021, des études sur le Covid, avec des grosses cohortes institutionnelles qui étaient les plus importantes en 2020, qui ont un peu diminué en 2021. Les essais cliniques, bien entendu. Donc voilà, une grosse activité quand même qui est restée soutenue malgré toutes les difficultés au cours des années 2020 et surtout 2021. Voilà, alors sur les nouveaux diagnostiqués, brièvement, donc ces patients nouveaux diagnostiqués, vous les voyez, il y en a eu 186 nouveaux diagnostiqués en 2021, on en avait 179 en 2020, mais il faut se rappeler que deux ou trois ans auparavant, on était sur des chiffres à 260, voire 320 patients. Donc là, on a une impression, on va regarder si c'est un effet Covid ou pas, mais en tout cas, on a une impression qu'il y a moins de nouveaux diagnostiqués VIH. Et vous voyez ici ce tableau, vous voyez en gris l'année, en haut l'année 2019, vous voyez en vert l'année 2020, et vous voyez l'année 2021 en violet. On vous a mis ici les périodes de confinement pour savoir s'il y avait un effet confinement. Il y a eu un effet confinement, mais je vous rappelle qu'en 2019, on dirait qu'il y a aussi un effet, qu'il n'y avait pas de confinement. C'est un petit creux entre le mois de mars et le mois de mai, qui doit être un mois moins propice au dépistage, comme le mois d'août et le mois de septembre. Voilà. Mais enfin, en tout cas, il y a un effet quand même peut-être important du confinement, des confinements, mais ce n'est pas encore très, très sûr. Ce n'est pas encore sûr que ça soit juste ça, et probablement peut-être autre chose. Ou, on l'espère, de l'impact de tout ce qu'on fait en dehors pour éviter le VIH. Voilà, c'est la répartition par genre et par site. On va passer. La répartition par tranche d'âge, on peut juste dire que sur les nouveaux diagnostiqués entre 2020 et 2021, la tranche d'âge s'est légèrement inversée entre les 15-30 ans et les 30-40. Avant, c'était les 30-40 qui ont été majoritaires, légèrement, et là, ça s'est un petit peu inversé. C'est plus les 15-30 qui ont été plus souvent dépistés. Y compris, ne pas oublier les vieux, hein, puisqu'on en a quand même des dépistés tardifs, à plus de 60 ans. Qui sont toujours concernant la répartition Afrique subsaharienne, transmétropolitaine majoritairement, les modes de contamination sur les nouveaux diagnostiqués, pas grand chose à dire, c'est encore le reflet général de ce qu'on connaît de la contamination dans notre corps et vie. Et sur le profil, juste pour savoir si c'est des LED présenteurs, si c'est des patients qui sont arrivés très tard, très tôt, on a quand même 27% des patients qui arrivent de nouveaux diagnostiqués avec moins de 200 CDK, donc c'est vraiment des LED présenteurs. 44% d'entre eux, c'est moins de 305 ans, donc c'est une histoire ancienne. Il n'y en a que 7,5% qui arrivent à une primo-infection, donc très précoce, et il y en a 12,9% qui arrivent directement au stade SIDA. Donc, on n'a pas changé considérablement le profil la répartition des profils de ceux qui se présentent avec une infection nouvellement diagnostiquée. Concernant le délai médian d'analyse sous antirétroviraux, c'est 19,5 jours. Alors, on peut être déçu. On a tous travaillé à ce que ça soit moins, que ça devienne du test intrinsèque. Or, on a quand même, vous voyez, le range entre 0 et 300, 301 jours. Donc, on va analyser particulièrement ça, ce délai, puisqu'il s'est légèrement augmenté par rapport à 2020 de 5 jours. Alors, normalement, on s'attendait, moi, je m'attendais à ce qu'on soit 7 jours, un truc comme ça. Donc, est-ce qu'on a des patients qui ont pris la poudre d'escampette, en fait? Mais ils ont été mis sous traitement, quand même. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce délai? Ce n'est pas très clair, ça mérite d'être vraiment analysé, même s'il y a des données manquantes, ça mérite d'être affiné. Alors, concernant la prévention des dépistades dans les Cégides, brièvement, beaucoup de consultations, au niveau de le total des consultations de dépistage Cégide dans les antennes, c'est 14 745 consultations. Le nombre de tests VIH réalisés, c'est 7 356. Les TROD réalisés, c'est moins, c'est 3 500, puisqu'il y a plus d'outils. Concernant la PrEP, vous voyez que sur l'ensemble de la Corévie, en 2021, on a en première initiation 320 personnes qui ont été mises sous PrEP. En 2020, on en avait 335, donc ça, en première initiation, ça n'a pas augmenté. Et quand on regarde la file active des suivis hors initiation, en 2020, on avait 476, on en a 587, donc il nous en manque. C'est-à-dire que normalement, tous ceux de 2020 auraient dû basculer dans un suivi, ce qui n'est pas le cas. Donc, soit, il faut affiner, soit ils sont pris en charge à l'extérieur, c'est possible, hein, dans d'autres centres, en médecine de ville, et donc ils quittent ou ils quittent vraiment. Donc, ça mérite d'être regardé en détail. Voilà, donc juste pour finir sur les chiffres clés, juste pour finir quand même sur les 122 jeunes de moins de 18 ans qui sont suivis à Robert Debré, sur les 84 accouchements qu'il y a eu au niveau de la Corévie, dont un cas de transmission materno-fœtale, il faut le déplorer, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas vu, les consultations sur le Cégide, la prophylaxie, on en a parlé, le nombre de patients suivis, l'accord, les 1500 patients de plus de 60 ans que l'on suit, voilà, et nos études, l'ensemble des études que l'on mène. Voilà, donc il faut remercier tout le monde, parce que c'est un gros effort. Les outils sont là, il ne faut pas les gâcher, et on va devoir faire un effort extrêmement précis maintenant pour intégrer dans ce travail épidémiologique, ce qui est un peu l'avenir de ce que doivent faire les Corévie, c'est d'avoir des outils beaucoup plus fins sur les IST. D'accord, le suivi des IST qui n'est pas intégré naturellement d'une certaine façon dans les outils de surveillance épidémiologique que nous avons. Il y a beaucoup de données manquantes, beaucoup de trous, et c'est dommage, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et alors, magnifiquement, hein, parce qu'on a le droit à tout le détail.
Il y a des gens qui écrivent.
On n'avait pas le droit aux données tant que ce n'était pas présenté.
Alors visiblement, est-ce que vous avez vu les diapos de Roland ou pas? Non, pas vous, je parle aux personnes connectées qui ont dit slide non visible, il y a un commentaire là. Donc, j'espère que les personnes connectées ont vu les diapos. Parce que... Non ? Ah, donc personne n'a vu les diapos.
On va recommencer.
Non, mais on est désolé, je ne sais pas pourquoi le partage d'écran n'a pas marché. Mais vous aurez le plaisir de découvrir la plaquette avec tous les chiffres, du coup. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés avec nous. Et puis. À très bientôt pour la prochaine plénière qui aura lieu probablement à la fin du dernier trimestre. À bientôt. Oui.